Chapitre 9. Le nœud de la conspiration. Un matin de fin février, en sortant du fort La Loi, ainsi que depuis l'an 2 s'appelait le château de Brest, Jean-Marie Anou, son service terminé, se préparait à entrer en ville par la rue de la Liberté, la vieille rue Saint-Yves, débaptisée elle aussi par la Révolution, quand ses yeux, errant machinalement à travers la rade, tombèrent sur les deux voiles brunes d'une barque qui piquait droit vers Brest. Les deux mâts parallèles, le gréement particulier, retinrent son attention et, d'instinct, il déclara « Un bateau de Camaret, bien certainement ». Il s'arrêta, suivant du regard la manœuvre, intéressé tout à coup, tandis que, par suite d'une association d'idées, la presqu'île de Crozon, l'anse de Dinan avec son incurvation profonde, se dessinant imaginairement devant lui, il murmurait doucement, hanté par la maisonnette de Kerlock, « Naïque ». C'était l'image de la jeune fille qui s'évoquait aussitôt en lui. Puis les dernières paroles échangées avec elle, le serment fait, l'engagement terrible qu'il avait pris, se dressèrent devant ses prunelles, comme des êtres vivants, animés, dont il était l'esclave volontaire. Il tressaillit, abaissant son front lourd de pensées, songeant à ce qu'il avait déjà fait, à ce qu'il lui restait encore à faire pour réaliser le rêve ébauché avec Mademoiselle de Couëtrozec. Leur complicité pour cette œuvre redoutable de conspiration, en les rapprochant forcément, en les liant d'une chaîne invisible, l'emplissait d'une joie virile et délicieuse. Mais, après avoir abattu ces deux voiles qui sifflèrent à ses oreilles avec le bruissement d'ailes d'un grand oiseau familier, la barque accostait et il la reconnut, soudain plein de contentement, d'espoir. Les sept frères, le bateau de Cornélie. Sa première et rapide pensée fut qu'il allait avoir des nouvelles de sa grand-mère, par conséquent des nouvelles d'Anne, qu'il n'avait pu voir depuis près d'un mois, depuis leur entente assurée. Il demeura immobile, ne voulant pas montrer trop de hâte, et cependant avide de savoir, car, chaque jour, il s'attendait à quelque message grave, à quelque décision qui devait influer sur sa conduite. Certainement, si la jeune fille lui adressait un message important, c'était les trois lettres qui le lui apporteraient, puisque, seul avec Plourac, il connaissait la présence d'Anne à Kerlock. Cependant, il ne semblait pas mettre de hâte à gagner la ville. Il débarquait de grands paniers, comme s'ils fussent simplement venus pour vendre leur pêche. Yanou remarqua qu'il laissait Pierrick à bord et énuméra les contents à mesure qu'il les voyait s'acheminer dans sa direction avec leur pesante lenteur habituelle. Cornélie, Hervé, Yves, Yann et Alan. « Tiens, il en manque deux, eux qui ne naviguent jamais les uns sans les autres. » Ils atteignaient la place située devant le château, dite place du triomphe du peuple, tout préoccupés de leur panier qu'ils s'étaient mis deux à porter pour les grands, tandis qu'Alan s'était chargé seul des petits, quand Cornélie, marchant le premier avec Hervé, apercevant Yanou debout, les bras croisés comme pour mieux contenir l'impatient élan qu'il eût lancé vers les arrivants afin d'avoir plus tôt des nouvelles, s'exclama « Te v'là le Jean-Marie ! C'est une chance de te rencontrer ainsi en débarquant !» Sa bonne figure souriait, montrant par sa placidité qu'il ne s'attendait nullement à la rencontre et que, s'il venait à Brest, ce n'était pas par suite d'une mission à son adresse. D'un air aussi dégagé qu'il le put, dissimulant son angoisse, le jeune officier questionna « Vous êtes en promenade par ici ?» Yann riposta, montrant le panier carré plein de homards et de langoustes qu'il portait avec Yves.
« En affaire, que tu peux dire, ce serait plus vrai. On apporte sa pêche à la ville, vu que les prix sont meilleurs qu'à Camaret. »
« Bien sûr que ce n'est pas par amusement, » acheva Alan, laissant glisser à terre les deux paniers ronds qu'il tenait enfilés par lance dans chacun de ses bras. C'est du poisson fin pour les Brestois, qu'on sait amateurs de bonnes choses. » Faisant comme s'il constatait seulement l'absence de deux de ses cousins, Yanou reprit, semblant chercher autour de lui.
Est-ce qu'il y a des malades chez vous qu'on ne voit ni Alcide ni Loïs ? Hervé haussa ses lourdes épaules, bougonnant.
Oh, ceux-là, ils sont à des histoires que le double nœud à ta langue, qu'on t'a dit,
interpella rudement Cornélie avec un regard mécontent à son fils. Puis, se rassérénant,
plus tard, quand le poisson sera vendu et qu'on pourra causer à l'aise, sans trop de mauvaises vermines d'oreilles aux écoutes, le cousin Jean-Marie saura tout. Je connais un petit débit au bas de la rue de Siam, ou plutôt rue de la Loi, comme il l'appelle maintenant, où la patronne est une camarade, l'encre du salut que ça se nomme, c'est facile à trouver.
Un peu intrigué du mystère de ces paroles, le jeune homme baissa affirmativement la tête, acquiesçant à la proposition, en disant avec une mine pleine de sous-entendus.
« Je sais, je sais. Eh bien, allez à vos affaires, je vais vous attendre là-bas. Cela vaut mieux, en effet, que de bavarder ainsi en plein air. »
Ils se séparèrent, les pêcheurs gagnant le haut de la ville pour aller au marché, pendant que leur cousin, longeant le château et l'entrée de la Pinfel, se rendait directement à l'espèce de cabaret qu'on venait de lui indiquer. L'encre du salut, un des innombrables débits des bas-quartiers de Brest, était tenue par une femme de cabaret, veuve d'un ancien quartier-maître et sur la discrétion de laquelle il pouvait absolument compter. Des gens du peuple le fréquentaient seuls d'habitude, mais nul ne pourrait s'étonner d'y voir Jean-Marie Yanou attablé avec ses cousins les pêcheurs, d'autant plus qu'on le savait également compatriote de la patronne. Elle le salua comme une vieille connaissance et l'installa dans une petite pièce de l'arrière vers laquelle il s'était immédiatement dirigé en habitué. Ce n'était pas la première fois qu'il s'y rendait, et depuis quelque temps surtout, on aurait pu les rencontrer assez fréquemment en conciliabule secret avec des ouvriers ou des matelots du port. En effet, pendant que Mathieu Plourac, en évoquant les souvenirs encore si brûlants de la Grande Guerre et les luttes sanglantes de la chouannerie, allait réveiller les passions assoupies de ses anciens compagnons de combat et faisait briller devant eux des espoirs nouveaux, pendant que l'abbé Judicaël Lecouat, avec son âpreté de fanatique, prêchait la guerre sainte aux gentilhommes bretons engourdis dans l'oisiveté et peu à peu désintéressés de toute revendication par l'impuissance dans laquelle ils se trouvaient plongés, à la suite de la soumission des insurgés royalistes acceptée par Cadoudal. À Brest, Jean-Marie Yanou, depuis la promesse faite à son ami d'enfance, ne restait pas inactif. À l'ardeur révolutionnaire qui brûlait déjà naturellement son sang, la rencontre inattendue d'Anne de Quatrozec chez Monique Kerbella, l'accueil qu'elle lui avait fait, les rendez-vous qu'elle avait ensuite acceptés, les espérances qu'elle avait su lui laisser entrevoir, ajoutaient une flamme plus dévorante encore. Son exaltation politique s'augmentait dans des proportions que rien ne devait plus comprimer. Jusque-là, il avait vécu un peu inerte, jouait passif et presque résigné de l'existence de chaque jour, agité d'un mécontentement sans but, se traduisant seulement dans les moments d'expansion par des paroles amères, par des plaintes, par des allusions aux promesses faites par le gouvernement, ce gouvernement qui semblait déjà n'avoir plus de républicains que le nom, et dont la pureté primitive, dont l'austérité s'émiettait sous une succession suspecte de coups d'État plus ou moins avoués depuis le 18 Brumaire. Maintenant, grâce à la conspiration qui s'élaborait dans cette désolée presqu'île de Crozon, et comme sous l'ombre protectrice des ailes de la chauve-souris voletant çà et là le long des côtes ou à travers les landes mystérieuses, il envisageait la possibilité d'une action énergique pour empêcher ce qui se préparait, c'est-à-dire le retour du despotisme, la sourde et progressive arrivée d'une dictature plus absolue encore, plus écrasante pour le pays, que la monarchie renversée et détruite par la Révolution. Tandis qu'il attendait les pêcheurs dans cette petite pièce isolée, tout un grondement de pensées bouillonnait en lui, lui rappelant l'œuvre des dernières semaines. Il en arrivait à se dire que les princes eux-mêmes lui paraissaient moins dangereux pour la France que ce maigre et pâle général triomphant que tout favorisait depuis son retour d'Égypte, devant lequel, de gré ou de force, par la magie des victoires, par la ruse, par la menace des baïonnettes et du canon, tous les pouvoirs se courbaient, assoiffés d'esclavage, et qui grandissait chaque jour en puissance, en autorité, en volonté. Aussi la jeune royaliste n'avait-elle pas eu de peine à le convaincre qu'il pouvait placer sans remords sa main dans la sienne et l'aider dans son hardi projet de combattre, de renverser le tyran. Il lui avait suffi, une fois de retour à Brest, de regarder autour de lui, de s'informer dans différents milieux pour se persuader que l'instant était propice. Sous l'influence du malaise général régnant en ce moment par toute la France, et qui avait pour point de départ les troubles se succédant depuis des mois et des années dans la capitale, la ville maritime se trouvait à peu près dans les circonstances où elle s'était déjà vue auparavant, en 1800, lors de la tentative avortée de l'enseigne de vaisseau Rivoire. Il essayait de se remémorer ses faits, assez obscurs dans sa mémoire, car il était alors bien jeune, lorsque l'entrée de Cornélie Troidec et de ses quatre fils l'arracha de ses réflexions. Encore sous l'obsession du dernier de ses souvenirs, il demanda vivement « Cousin Cornélie, est-ce que tu ne l'aurais pas connu, toi, ce Rivoire, dont on a parlé ici à propos de conspiration il y a un peu plus de 3 ans ?» Le pêcheur sursauta d'étonnement à cette question qu'il n'attendait pas et fit
« Au diable, si j'ai eu connaissance de celui que tu dis, je le crois bien, mon fils, car j'ai failli entrer dans l'affaire à l'époque. »
Souriant, il poursuivit
« Un fameux moment qu'il avait choisi, celui où le camp de Saint-Renan venait d'être levé, où toutes les troupes cantonnées autour de Brest étaient parties pour la frontière, où les canonniers de la marine furent appelés pour les rejoindre. Seulement, criblé de dettes qu'il était, cet officier de marine, et alors pas d'argent pour mettre tout en train comme il aurait fallu. »
Yanou demanda « N'était-ce pas aux Anglais qu'il voulait livrer Brest ?» Le camarétois, un éclair dans les yeux, s'écria
« Oui, je l'ai appris à temps, et c'est pourquoi j'ai refusé de le servir, bien qu'il mît en avant les noms de Georges Cadoudal et du comte d'Artois. »
Hervé appuya « Et tu as bien fait, père, car acquitté d'abord par la cour martiale maritime de Brest, il a été condamné à la déportation par la seconde cour martiale que le premier consul furieux avait fait réunir à Rochefort après avoir fait destituer et arrêter les officiers composant la première. »
Le jeune officier d'artillerie de marine répondit songeur. « Oui, il se croit le maître de tout et de tous. Il brise ceux qui lui résistent. Aujourd'hui, il n'est plus, comme au début, le citoyen Bonaparte. Il se fait appeler Napoléon Bonaparte. Il a une cour, un gouverneur de son palais des Tuileries. Si nous ne nous hâtons pas et si on n'y met pas bon ordre, on ne sait où il s'arrêtera. Il est temps d'agir, moi je suis prêt, et le sort de l'enseigne Rivoire ne m'épouvante pas. »
Cornélie l'avait écouté sans l'interrompre. Il intervint.
« Quand j'ai empêché Hervé de parler, au moment de notre rencontre devant le château, il allait te dire pourquoi Alcide et Loïs ne se trouvaient pas avec nous. Ils accompagnent Mademoiselle de Poitrozec dans une expédition du côté des Monts d'Arrée, afin de chercher l'argent caché par son défunt père et de pouvoir enfin mettre à exécution ce que nous désirons tous. »
Jean-Marie s'exclama, plein de fièvre. « Elle t'a chargé de me l'annoncer ?»«
Non, »
reprit le pêcheur.
« Mais c'est que, sans doute, elle veut apprendre elle-même ce qu'elle aura fait. Et cela ne saurait tarder, puisque voilà déjà plusieurs semaines qu'elle est partie avec tonton Mao et le recteur Judicael Lequat. Nous attendons tous les jours de ses nouvelles. Mais toi, pourras-tu lui en donner qu'il lui fasse plaisir ?»
Il redressa sa tête énergique, l'œil brillant, la physionomie décidée. « Oh, moi, oui, elle sera contente, je crois. » Et il ne voulut rien ajouter, désireux de garder pour elle seule ce qu'il savait. Il semblait écouter en lui, avec une joie confiante, le tapage de tous les grondements significatifs, de toutes les colères, de tous les indices précurseurs de révolte qu'il avait patiemment relevés dans Brest, depuis ceux des ouvriers du port, des marins anciens compagnons d'armes de son père, des humbles, jusqu'à ceux des plus hauts gradés de la marine et de l'armée. C'était partout, il n'avait pu s'en assurer, un mécontentement sourd sans véritables raisons avouées, mais tenant à 1000 motifs cachés, à l'accumulation des petits griefs, parfois plus irritants que les grands, à la durée trop prolongée d'un état de choses qui ne pouvait s'éterniser. l'explosion dépendait de l'énergie, du pouvoir persuasif de celui qui consentirait à provoquer le mouvement. Et Yanou sentait grandir en lui cette âme de dévouement, de sacrifice, qui ferait de lui un chef et peut-être une victime expiatoire offerte en holocauste pour le salut de la patrie. Il conclut, en voyant ses cousins se lever pour se diriger vers le port et y attendre l'heure de la marée afin de regagner Camaret, « S'irrivoir, si d'autres encore ont échoué, c'est parce qu'ils risquaient de livrer nos côtes à l'Angleterre. Avec moi, rien de pareil à redouter, on le sait. Ce n'est pas le fils d'un des héros du vaisseau de gloire, le Vengeur, qu'on pourra jamais soupçonner de favoriser les Anglais. C'est pourquoi moi j'ai confiance. » Dans son enthousiasme désintéressé, ce qu'il voyait, c'était le triomphe de la République telle qu'il la rêvait, un gouvernement idéal de justice, de paix, de fraternité. Il pensait fermement, avec la foi candide de sa jeunesse, que tous les nobles et purs esprits se rallieraient autour de lui quand il se lèverait pour combattre le despotisme menaçant, aussi bien ceux qui, poussés par leur vieille fidélité monarchique, se préparaient à embraser le département sous la conduite de Mademoiselle de Couëtrozec, que ses amis républicains de Brest. On marcherait ensemble pour le bien de la France. À l'instant où, sur le cours de la Réunion, la splendide promenade dominant la rade que venait tout récemment de tracer l'ingénieur Dajot, il allait se séparer des trois decks, une forme de femme glissant entre les arbres appela impérativement ses yeux. Il balbutia, indiquant à ses compagnons une mante bien reconnaissable. « C'est elle !» Anne les avait également aperçus. Elle se dirigea rapidement vers eux, expliquant. « Je suis là depuis un moment et je vous attendais, ayant appris par Pierrick que vous vous trouviez en ville. Vous me reconduirez à Camaret, si cela se peut, sans qu'on me voie. Mais auparavant, il faut que je parle en particulier à Jean-Marie Yanou. » Elle semblait bouleversée d'une émotion qu'elle avait peine à contenir, et pendant que les pêcheurs regagnaient leur barque, elle entraîna rapidement le jeune officier vers un des massifs d'arbustes les plus rapprochés. Là, dès qu'ils furent seuls, assurés contre toute indiscrétion, elle annonça. « Les dernières nouvelles de Paris sont des plus mauvaises. Puis-je toujours compter sur vous ?» Il protesta. « Pouvez-vous en douter ? Quoi qu'il arrive désormais, je ne me séparerai jamais de vous. » « Eh bien, personne encore ne le sait à Brest, mais un courrier extraordinaire est parti de Paris pour en informer le préfet Caffarelli. » Pichegru et Moreau sont arrêtés. Cadoudal le sera incessamment. Le coup de Georges contre Bonaparte est manqué. » Une stupeur s'abattit sur l'officier. Il bégaya, frappé d'un seul fait, d'un seul nom. Moreau, le général Moreau, le vainqueur de Hohenlinden, celui qui, après cette victoire décisive, a prononcé cette humaine et magnifique parole. « Mes amis, nous avons conquis la paix. Moreau, la plus pure gloire du pays, il a osé ? Oh ! » Mais déjà il se redressait, brûlant d'enthousiasme. « Nous le délivrerons, nous l'arracherons à ses juges, à ses bourreaux. Ah, Bonaparte a fait cela, porter la main sur son rival de gloire après l'avoir mis de côté, dénigré, écrasé sous les humiliations. Mais tout le pays se soulèvera d'indignation quand on va apprendre cet attentat. » La jeune fille secoua la tête. « À Paris, personne n'a bougé. Tous tremblent devant le premier consul. Tous redoutent sa police, ses mamelouks, le peloton d'exécution, la plaine de Grenelle. Et s'il y a des mécontents, ils se cachent, ils n'élèvent pas la voix. Les gendarmes parcourent les rues, les portes sont fermées, gardées, et on défend de clouer les cercueils pour voir s'ils ne cachent pas des vivants. C'est le retour de la terreur. » Une fureur le prit. Si la capitale a peur et ne dit rien, la Bretagne, elle, criera sa colère, elle se révoltera. Ainsi, ce n'est pas assez d'avoir peu à peu effacé derrière sa suprématie des généraux qui étaient ses égaux en mérite, ses rivaux en victoire. Voici qu'il les fait arrêter comme de simples malfaiteurs par sa gendarmerie, qu'il les fera accuser et peut-être condamner par des juges courbés devant ses ordres. C'est à nous de nous y opposer et de l'empêcher de continuer. La mesure est comble. Le salut du pays est dès à présent entre nos mains et notre devoir, c'est d'agir. » Anne l'écoutait, un sourire de joie aux lèvres, une flamme d'admiration aux yeux. « Ainsi,
vous ne désespérez pas ?» Il lui avait saisi la main entre les siennes.
« Moins que jamais, Kadoudal ignorait nos projets. Il peut être mis dans l'impossibilité d'exécuter son plan, sans entraver en rien ce que nous avons résolu de faire. Nous n'avons qu'à continuer comme par le passé. Les nouvelles que vous m'apportez peuvent, au contraire, être un coup de fouet pour ceux qui hésitaient encore. Toucher à Moreau, à notre compatriote si glorieux, c'est provoquer la Bretagne tout entière. C'est prouver que plus personne ne peut être à l'abri d'un outrage semblable. En sa personne, c'est l'armée aussi qui est grièvement atteinte, cette armée qui déjà, lors du plébiscite pour le consulat à vie, a, en grande partie, contribué aux 8374 noms, protestant contre les 3568885 oui, courbés devant Bonaparte. Ne va-t-elle pas enfin se lever plus nombreuse, plus unie devant cette menace et cette insulte ?
Une indignation généreuse coulait dans ses veines comme un fleuve de feu. Elle se souvint que, autrefois, en janvier 1801, Georges Cadoudal, qui s'était engagé à livrer Belle-Île, dont il prétendait la garnison complètement composée d'hommes à lui, écrivait que, pour Brest, il ne répondait pas absolument du succès. Un peu inquiète de cet antécédent de mauvais augure, elle interrogea. « Vous pensez que nous aurions Brest ?» Il reprit, plein de confiance. « Je les ai tous vus, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, et je sais ceux sur lesquels je puis compter comme sur moi-même, ouvriers et marins. Tous marcheront à mon premier signal. Ils n'ignorent pas que je suis sorti du peuple, que je connais leurs intérêts, leurs besoins. Patriotes convaincus, déçus dans leurs espérances, ils se plaignent tout bas de voir abandonner chaque jour de plus en plus les principes qui leur sont chers. Les officiers, peut-être, se montraient jusqu'à ce jour moins décidés, mais l'arrestation de Moreau va les lancer ouvertement dans la lutte. » Elle l'écoutait, gagnée par sa confiance, oubliant tout ce qui les séparait, grisée par sa jeunesse, par son enthousiasme communicatif, ne voulant plus se souvenir que s'il parlait ainsi, c'était au nom de tout ce qu'elle détestait, c'est-à-dire la Révolution, la République. En ce moment, une seule pensée la dévorait, l'espoir de la réussite. Les paroles vibrantes de son complice lui apportaient une certitude plus grande du triomphe qu'elle rêvait. Elle avait bien compris que le mouvement des campagnes demeurerait stérile si les grandes villes n'y prenaient pas part, et voici qu'elle voyait grandir devant elle l'assurance de soulever Brest contre le premier consul. Grâce à Jean-Marie Yanou, le foyer central de l'incendie pouvait se trouver là. C'était ce port de si haute importance qui serait le nœud de la conspiration. Avec Brest, en effet, on aurait la côte tout entière, la facilité de faire débarquer tous les renforts dont on aurait besoin, de manière à marcher rapidement sur Paris, à jeter la province sur la capitale en une agression audacieuse, irrésistible, qui emporterait tout. Ce fut lui qui, le premier, s'arracha à l'engourdissement extasié qui les tenait tous les deux. Il objecta. « Surtout de la prudence. Nul ne vous connaît ici, et si vous vous y attardiez, votre présence ne tarderait pas à être signalée, car nous avons une police particulièrement soupçonneuse. » Il faut que vous regagniez le plus tôt possible Kerlock et la demeure de ma grand-mère. Ayez confiance, dès que j'aurai quelque chose de nouveau, vous en serez prévenu. » Longtemps, accoudé au mur qui surplombe la rade, il la regarda. Glissant légère, énigmatique sous le capuchon étrange et dans l'enveloppement des plis flottants de la longue mante sombre de Monique Kervella, elle descendait, se dirigeant vers la barque des Troadec. Sitôt qu'elle eut rejoint les sept frères, les deux voiles brunes furent hissées. Le patron se mit à la barre et l'embarcation, inclinée sous la brise du soir, prit le large dans la direction du goulet. Debout à l'arrière, auprès du gouvernail, ses ailes largement étendues, il sembla à Jean-Marie Yanou qu'une énorme chauve-souris planait, emportant le secret d'où dépendait son honneur, sa vie. Il eut la vision et comme la sensation troublante du symbole mystérieux qui présidait à la conspiration dans laquelle il s'était engagé.